From the conference center at Temple.
Depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du dimanche après-midi de la 185e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry Ehring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Brothers and sisters, we welcome you to the...
Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche après-midi de la 185e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy, accompagné par Bonnie Goodliff et Linda Margaret à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant que chacun de tout son cœur. Ensuite, Jörg Klebingat, des 70, fera la prière d'ouverture. Il sera suivi par le chœur qui y chantera « Our God is a God of Love ».
Cher Père Céleste, nous émerveillons encore de la façon dont nous avons vu les vacances du Collège des Douze Apôtres être remplies hier. Nous te remercions d'être les témoins de tout cela et de voir comment les choses se passent dans l'Église vraie sur la terre. Nous sommes reconnaissants pour les trois hommes que tu as préparés. Et ceux d'entre nous qui les connaissons, nous savons que tu les as choisis et nous sommes reconnaissants d'être avec eux et leur famille. Et pour le cœur des membres de l'Église qui ont été touchés, nous te remercions de ce que nous sommes touchés de tes apôtres nouvellement choisis. Nous te rendons grâce aussi pour le président Monson, notre prophète bien-aimé, qui use sa vie depuis des décennies maintenant. Veuille le bénir et le soutenir dans son service. Nous savons qu'il ne peut y avoir de véritable adoration ou d'une véritable religion sans communication de ta part. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants d'être assis aux pieds d'apôtres et prophètes dans ces derniers jours. Bénis-les avec la sagesse de nous aider à maintenir notre regard fixé sur ton Sauveur, Jésus-Christ, et sur ses serviteurs, les apôtres, afin que nous sachions reconnaître la voix, leur voix, et savoir où aller. Bénis les orateurs, ainsi que nous-mêmes, par un déversement de ton esprit, que nous puissions ressentir ton esprit et aller ensuite de l'avant avec la détermination de diminuer l'écart qu'il y a entre ce que nous savons et ce que nous ressentons et ce que nous faisons vraiment et ce que nous devenons. Puissions-nous faire tout cela et persévérer jusqu'à la fin et être heureux jusqu'à la fin dans ton évangile merveilleux. Nous te prions humblement pour cela au nom de ton Saint-Fils, Jésus-Christ. Amen.
We will now be pleased to hear from Elder D. Todd.
Nous aurons à présent le plaisir d'entendre Todd Christofferson du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi par Devin Durant, qui a été soutenu hier comme premier conseiller dans la présidence générale de l'École du Dimanche. Suite au discours de Frère Durant, nous entendrons Von Kitsch, des 70, puis Carol Stephens, première conseillère dans la présidence générale de la Société de Secours.
Tout au long de ma vie, les conférences générales de l'Église ont été des événements spirituels exaltants. Et l'Église elle-même a été un lieu où j'en suis venu à connaître le Seigneur. Je suis conscient qu'il y a des personnes qui se considèrent religieuses ou spirituelles et qui rejettent pourtant l'idée d'être membre d'une Église ou même le besoin d'une telle institution. Pour elles, la pratique religieuse est une affaire strictement personnelle. Pourtant, l'Église est une création de celui en qui est ancrée notre spiritualité, Jésus-Christ. Cela vaut la peine de réfléchir aux raisons pour lesquelles il choisit d'utiliser une Église, son Église, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, pour accomplir son œuvre et celle de son Père, qui est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Dès l'époque d'Adam, l'évangile de Jésus-Christ a été prêché et les ordonnances essentielles du salut, comme le baptême, ont été accomplies selon un ordre de la prêtrise basé sur la famille. Quand les sociétés sont devenues plus que de simples familles élargies, Dieu a aussi appelé d'autres prophètes, messagers et instructeurs. À l'époque de Moïse, il y avait une structure plus formelle comprenant des anciens, des prêtres et des juges. Dans le livre de Mormon, Alma a établi une église avec des prêtres et des instructeurs. Puis, au midi des temps, Jésus a organisé son œuvre d'une manière telle que l'Évangile a pu être établi simultanément dans de multiples nations et parmi divers peuples. Cette église de Jésus-Christ était fondée sur des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Elle comprenait d'autres officiers, par exemple des 70, des anciens, des évêques, des prêtres, des instructeurs et des diacres. De manière similaire, Jésus a établi l'Église sur le continent américain après sa résurrection. Après l'apostasie et la désintégration de l'Église qu'il avait organisée quand il était sur la terre, le Seigneur a rétabli l'Église de Jésus-Christ par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. L'objectif ancien demeure de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ et d'accomplir les ordonnances du salut, autrement dit, d'amener les gens au Christ. Et maintenant, par l'entremise de cette Église rétablie, la promesse de la rédemption est mise à la portée même des esprits des morts qui, de leur vivant, ne savaient que peu ou rien de la grâce du Sauveur. Comment l'Église du Seigneur accomplit-elle ses desseins? Il est important de savoir que l'objectif suprême de Dieu est notre progression. Son désir est que nous continuions grâce en grâce jusqu'à ce que nous recevions la plénitude de tout ce qu'il peut nous donner. Cela exige davantage que le simple fait d'être gentil ou de se sentir spirituel. Cela requiert la foi en Jésus-Christ, le repentir, le baptême d'eau et d'esprit et la persévérance dans la foi jusqu'à la fin. On ne peut y parvenir dans l'isolement. L'une des principales raisons pour lesquelles le Seigneur a une Église est donc de créer une communauté de saints qui se soutiendront mutuellement sur le sentier étroit et resserré qui conduit à la vie éternelle. Et Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. prendre son nom sur nous consiste, pour une grande part, à nous unir à son corps qui est son Église. Il nous est dit que jadis, les membres de l'Église se réunissaient souvent pour jeûner et pour prier et pour se parler l'un à l'autre du bien-être de leur âme et pour entendre la parole du Seigneur. Ainsi en est-il dans l'Église aujourd'hui. Unis dans la foi, nous nous instruisons et nous édifions mutuellement et nous efforçons de nous rapprocher de la pleine mesure de disciples, la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous nous aidons les uns les autres à connaître le Seigneur, jusqu'au jour où il ne sera plus nécessaire qu'un homme dise à ses semblables « Connaissez l'Éternel », car tous le connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Non seulement nous apprenons la doctrine divine dans l'Église, mais nous l'y mettons aussi en pratique. En tant que corps du Christ, les membres de l'Église se servent mutuellement dans la réalité de la vie quotidienne. Nous sommes tous imparfaits. Il peut nous arriver de commettre des offenses et d'en subir. Souvent, nous mettons les autres à l'épreuve par nos manies personnelles. Dans le corps du Christ, nous devons aller au-delà des notions théoriques et des discours exaltés pour vivre une véritable expérience participative en apprenant à vivre ensemble dans l'amour. Dans notre religion, on ne se préoccupe pas uniquement de soi. Nous sommes tous appelés à servir. Nous sommes les yeux, les mains, la tête, les pieds et d'autres membres du corps du Christ. Et même les membres qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Nous avons besoin de ces appels et nous avons besoin de servir. Un des hommes de ma paroisse a grandi non seulement sans le soutien de ses parents, mais même avec leur opposition à ce qu'il aille à l'Église. Il a déclaré lors d'une réunion de Sainte-Seine, « Mon père ne comprend pas pourquoi quelqu'un irait à l'Église quand il peut aller faire du ski. Mais j'aime vraiment aller à l'église. Dans l'église, nous faisons tous le même voyage. Et dans ce voyage, je suis inspiré par des jeunes forts, par des enfants purs, et par ce que je vois et apprends d'autres adultes. Cette association me renforce et la joie de vivre l'évangile me remplit d'enthousiasme. Parallèlement, les paroisses et les branches de l'église offre une occasion hebdomadaire de rassemblement, de répit et de renouveau, un temps et un lieu pour laisser le monde derrière nous, le sabbat. C'est un jour qui nous est donné pour mettre notre plaisir en l'Éternel, pour bénéficier de la guérison spirituelle qui accompagne la Sainte Cène et recevoir la promesse renouvelée d'avoir son esprit avec nous. L'une des plus grandes bénédictions qu'il y a à faire partie du corps du Christ, bien que cela puisse ne pas sembler être une bénédiction sur le moment, et d'être réprimandé pour nos péchés et nos erreurs. Nous sommes enclins à excuser et justifier nos fautes, et parfois, nous ne savons tout simplement pas en quoi nous devrions nous améliorer, ou comment le faire. Sans les personnes qui peuvent nous réprimander avec rigueur en temps opportun, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous pourrions manquer du courage de changer et de suivre plus parfaitement le Maître. Le repentir est individuel, mais c'est dans l'Église que l'on trouve de la compagnie sur ce chemin parfois douloureux. Dans cette conception de l'Église, comme étant le corps du Christ, nous devons toujours garder deux choses à l'esprit. Premièrement, nous ne nous efforçons pas de convertir à l'Église, mais au Christ et à son Évangile, conversion qui est facilitée par l'Église. Le livre de Mormon exprime cela très bien lorsqu'il dit que le peuple fut converti au Seigneur et fut uni à l'Église du Christ. Deuxièmement, nous devons nous souvenir qu'à l'origine, l'Église était la famille, et aujourd'hui encore, en tant qu'institution distincte, la famille et l'Église se servent et se soutiennent mutuellement. Aucune des deux ne supplante l'autre. Et il est certain que l'Église, aussi bonne qu'elle puisse être, ne peut se substituer aux parents. L'objet de l'enseignement de l'Évangile et des ordonnances de la prêtrise accomplies par l'Église, et que les familles puissent remplir les conditions requises pour obtenir la vie éternelle. Il y a une deuxième raison essentielle pour laquelle le Sauveur agit par le biais d'une Église, son Église. C'est d'accomplir des choses nécessaires qui ne peuvent être accomplies par des personnes seules ou par des groupes plus petits. Le traitement de la pauvreté en donne un exemple clair. Il est vrai qu'en tant que personne et famille, nous veillons aux besoins physiques des autres, donnant les uns aux autres tant temporellement que spirituellement, selon leurs besoins et ce qui leur est nécessaire. Mais collectivement, la capacité de l'Église de s'occuper des pauvres et des nécessiteux est multipliée pour répondre aux besoins à une plus grande échelle, et l'autonomie souhaitée devient une réalité pour beaucoup. En outre, l'Église, ses sociétés de secours et ses collèges de la prêtrise ont la capacité d'apporter du soulagement à de nombreuses personnes dans de nombreux endroits touchés par des catastrophes naturelles, par la guerre et les persécutions. Sans les capacités de son Église, le commandement du Sauveur d'apporter l'Évangile au monde entier ne pourrait être accompli. Il n'y aurait pas les clés apostoliques, la structure, les moyens technologiques, les ressources financières et le dévouement et le sacrifice de milliers et de milliers de missionnaires nécessaires pour accomplir cette œuvre. Souvenez-vous que cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations et qu'alors viendra la fin. L'Église peut construire et faire fonctionner des temples, des maisons du Seigneur, où des ordonnances et des alliances essentielles peuvent être accomplies. Joseph Smith a déclaré que l'objectif de Dieu, lorsqu'il rassemble son peuple à quelque époque que ce soit, est, je cite, « d'édifier au Seigneur une maison par laquelle il peut révéler à son peuple les ordonnances de sa maison et les gloires de son royaume, et enseigner au peuple le chemin du salut. Car il y a des ordonnances et des principes qui, quand on les enseigne et les pratique, doivent l'être dans un endroit ou une maison que l'on a construite dans ce but. » Fin de citation. Si quelqu'un croit que tous les chemins mènent au ciel ou qu'il n'y a pas de conditions particulières à remplir pour être sauvé, il ne verra aucun besoin de proclamer l'Évangile ou d'accomplir des ordonnances et des alliances pour racheter les vivants ou les morts. Mais nous ne parlons pas seulement de l'immortalité, mais aussi de la vie éternelle. Et pour elle, le chemin et les alliances de l'Évangile sont essentiels. Et le Sauveur a besoin d'une Église pour les rendre accessibles à tous les enfants de Dieu, vivants et morts. La dernière raison que je vais mentionner, pour laquelle le Seigneur a établi son Église, est la plus remarquable. L'Église est, après tout, le royaume de Dieu sur la terre. Alors que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours était en cours d'établissement dans les années 1830, le Seigneur a dit à Joseph Smith le prophète, « Élevez votre cœur et réjouissez-vous, car c'est à vous que le royaume, ou en d'autres termes, les clés de l'Église, a été donné. » Avec l'autorité de ces clés, les officiers de la prêtrise de l'Église préservent la pureté de la doctrine du Sauveur et l'intégrité de ses ordonnances salvatrices. Avec les clés de la prêtrise, les serviteurs du Seigneur peuvent reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux, et déclarer de nouveau avec autorité. Ainsi, dit le Seigneur, malheureusement, certaines personnes ont des sentiments négatifs à l'égard de l'Église, parce qu'elles veulent définir leur propre vérité, mais en réalité, c'est une bénédiction plus grande de recevoir une connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient, et telles qu'elles sont à venir, dans la mesure où le Seigneur est disposé à les révéler. L'Église protège et publie les révélations de Dieu qui constituent le canon des Écritures. Quand Daniel donna l'interprétation du rêve de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lui faisant connaître ce qui arrivera dans la suite des temps, il déclara, « Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous les autres royaumes et lui-même subsistera éternellement. L'Église est ce royaume des derniers jours annoncé par prophétie, qui n'est pas créé par l'homme, mais établi par le Dieu des cieux et qui roule comme une pierre détachée de la montagne sans le secours d'aucune main pour remplir la terre. » Sa destinée est d'établir Sion en préparation du retour de Jésus-Christ et de son règne millénaire. Avant ce jour, ce ne sera pas un royaume dans un quelconque sens politique. Le Sauveur a dit, en effet, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » C'est en fait le dépositaire de son autorité sur la terre, l'administrateur de ses saintes alliances, le gardien de ses temples, le protecteur et le porte-parole de sa vérité, le lieu de rassemblement d'Israël dispersé et une défense et un refuge contre la tempête et contre la colère lorsqu'elle sera déversée sans mélange sur toute la terre. Je termine avec la supplication et la prière du prophète. Invoquez le Seigneur pour que son royaume aille de l'avant sur la terre, pour que les habitants de la terre le reçoivent et soient préparés pour les jours à venir, où le Fils de l'homme descendra dans les cieux, revêtu de l'éclat de sa gloire, à la rencontre du royaume de Dieu qui est établi sur terre. C'est pourquoi que le royaume de Dieu aille de l'avant, afin que le royaume des cieux puisse venir, afin que toi, ô Dieu, tu sois glorifié sur terre comme au ciel, afin que tes ennemis soient soumis, car c'est à toi qu'appartiennent l'honneur, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, amen.
By profession, I am an investor.
Ma profession, c'est investisseur. Ma religion, c'est disciple de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans mon activité professionnelle, j'applique des principes financiers rigoureux. Quand je vis ma foi, je m'efforce de suivre des principes spirituels qui m'aident à devenir plus semblable au Sauveur. Beaucoup de récompenses que j'ai reçues à titre personnel ont été le résultat de la demande de quelqu'un que j'accomplisse une tâche difficile. C'est avec cet objectif en tête que je vous lance deux invitations. La première a des implications financières. La deuxième a des implications spirituelles. Chacune de ces invitations, si vous les acceptez, exigera de vous que vous fassiez preuve d'une discipline rigoureuse pendant une longue période avant d'en recevoir les récompenses. La première invitation est simple. Je vous invite à économiser de l'argent chaque semaine. Le montant importe peu, c'est à vous d'en décider. En prenant l'habitude de faire des économies, vous serez béni personnellement. Et vous aurez peut-être aussi des occasions de soutenir financièrement d'autres personnes du fait de votre diligence. Imaginez les résultats édifiants qui découleront de cette pratique hebdomadaire pendant 6 mois, 1 an, 10 ans ou plus. Des petits efforts continus peuvent produire de grands résultats avec le temps. Ma deuxième invitation est très différente et bien plus importante que la première. La voici. Je vous invite à méditiser un verset d'écriture par semaine. Le verbe « méditiser » ne se trouve pas dans le dictionnaire, mais je l'aime bien. Que signifie « méditiser » ? J'aime à dire que c'est le résultat de 80% de méditation associé à 20% de mémorisation. Il y a deux étapes simples. Premièrement, choisissez un verset d'écriture chaque semaine et mettez-le à un endroit où vous le verrez tous les jours. Deuxièmement, lisez ce verset ou pensez-y plusieurs fois par jour, puis méditez sur le sens de ses paroles et de ses expressions clés tout au long de la semaine. Imaginez les résultats édifiants qui découleront de cette pratique hebdomadaire pendant 6 mois, 1 an, 10 ans ou plus. Si vous faites cet effort, vous aurez plus de spiritualité. Vous aurez aussi la capacité de mieux instruire et édifier les personnes qui vous sont chères. Quand vous commencerez à méditiser chaque semaine, vous ressentirez que même si vous aimiez lire les Écritures avant, vous les comprenez et les appréciez encore plus maintenant. Grâce à cette décision, vous aurez une plus grande compréhension des principes de l'Évangile et des perspectives spirituelles nouvelles et bénéfiques. Parce que vous réfléchissez à votre verset choisi chaque semaine, ces paroles et ces phrases seront écrites sur votre cœur. Elles sont aussi écrites dans votre esprit. En d'autres termes, la mémorisation se fera facilement et naturellement. Mais le premier objectif de la méditation est de créer un espace édifiant où vos pensées pourront se rendre à un endroit qui vous gardera près de l'Esprit du Seigneur. Le Sauveur a dit « Amassez continuellement dans votre esprit les paroles de vie ». La méditation est une façon simple et édifiante de le faire. Je crois que Néphi était un méditiseur. Il a déclaré « Mon âme fait ses délices des Écritures, et mon cœur les médite continuellement et les écrit pour l'instruction et le profit de mes enfants ». Il pensait à ses enfants quand il méditait et rédigeait les Écritures. De quelle façon votre famille sera-t-elle bénie si vous vous efforcez continuellement de remplir votre esprit des paroles de Dieu? Récemment, j'ai méditisé Alma 5, 16. On y lit « Je vous le dis, pouvez-vous vous imaginer entendre la voix du Seigneur vous dire en ce jour-là « Venez à moi, vous qui êtes bénis, car voici, vos œuvres ont été les œuvres de la justice sur la surface de la terre ». À la fin de la semaine, j'ai retenu ceci. Imaginez que vous entendez la voix du Seigneur qui vous dit « Venez à moi, vous qui êtes bénis, car voici vos œuvres ont été les œuvres de la justice. » Alma 5:16. Comme vous le voyez, je n'ai pas mémorisé le verset mot pour mot. En revanche, j'ai médité plusieurs fois sur les points clés et leurs emplacements dans le verset. Mais la meilleure partie a été d'avoir un lieu supérieur vers lequel diriger mes pensées. Tout au long de la semaine, j'ai imaginé le Sauveur en train de m'adresser des encouragements. Cette image m'a permis de me sentir aimé et m'a inspiré le désir de faire les œuvres de la justice. Voilà ce qui peut se produire lorsqu'on se tourne vers le Christ dans chacune de nos pensées. Vous vous demanderez peut-être, pourquoi je devrais faire ça? Ma réponse est que nous vivons en des temps où le mal se répand de plus en plus. Nous ne pouvons simplement pas accepter les choses telles qu'elles sont aujourd'hui et écouter les paroles laides ou regarder les images malsaines qui nous assaillent quasiment de tous les côtés sans réagir. Nous devons résister. Lorsque notre esprit est rempli de pensées et d'images édifiantes, quand nous nous souvenons toujours de lui, il n'y a plus de place pour la saleté et les ordures. Dans le livre de Mormon, Jésus-Christ invite tout le monde à méditer sur les choses qu'il a dites. Vous pouvez prendre la méditation comme une aide supplémentaire en plus de votre étude personnelle et familiale des Écritures, mais cela ne doit en aucun cas devenir un substitut. La méditation est un peu comme une nouvelle vitamine à rajouter à votre régime spirituel actuel. Vous voudrez peut-être, c'est trop dur pour moi de méditer, que ça ne vous arrête pas. La difficulté est peut-être une bonne chose. Le Christ nous invite à accomplir beaucoup de choses difficiles parce qu'il sait que nous serons bénis suite à nos efforts. Un de nos voisins a trouvé une manière simple de méditer. Il met son écriture de la semaine sur la page d'accueil de son téléphone. Une autre idée que vous pourriez essayer serait de parler de votre verset avec un membre de votre famille, un de vos enfants ou un ami. Ma femme, Julie et moi, nous nous aidons mutuellement. Nous choisissons nos versets chaque dimanche. Elle place le sien sur notre frigo. Je place le mien dans mon pick-up. Ensuite, nous faisons part du fruit de nos réflexions sur nos versets tout au long de la semaine. Nous aimons aussi discuter de nos versets avec nos enfants. Quand nous le faisons, ça semble les mettre à l'aise pour nous dire ce qu'ils pensent de la parole de Dieu. Julie et moi faisons également partie d'un groupe en ligne dans lequel des membres de la famille, des amis, des missionnaires publient leur écriture chaque semaine et incluent occasionnellement une pensée ou un témoignage en rapport avec ce verset. Ma fille, qui va à l'école secondaire, fait partie d'un groupe d'amis qui utilisent les médias sociaux et les textos pour discuter des écritures ensemble. N'hésitez pas à ajouter à votre groupe des personnes qui ont d'autres croyances. Elles aussi recherchent des moyens d'élever leur âme et de se rapprocher de Dieu. Alors, quels avantages y a-t-il? Julie et moi méditisons un verset par semaine depuis plus de 3 ans maintenant. Au départ, nous étions fixés le but de le faire pendant 20 ans. Récemment, elle m'a dit, « Quand tu m'as invité à méditer une écriture chaque semaine pendant 20 ans, je me suis demandé si je pourrais tenir un mois. Je n'ai plus aucun doute à présent. Je n'en reviens pas de voir à quel point ça a été amusant de placer une écriture sur le frigo chaque semaine et la méditer chaque fois que je la croise. C'est vraiment inspirant. » Après avoir médité pendant 6 semaines, une sœur du Texas a déclaré « Mon témoignage s'est renforcé, je me suis rapproché de mon Père Céleste. Je suis ravi de constater à quel point la parole de Dieu m'aide à m'améliorer. » Un ami adolescent a écrit « Je suis très content d'avoir pu méditer parce que ça m'a aidé à me concentrer sur les choses qui sont les plus importantes. » Un de nos missionnaires nous a dit ceci « Je médite un verset chaque semaine depuis juin 2014. Et j'aime vraiment ça. » Ces écritures sont devenues comme des amis sur lesquels je peux compter quand j'en ai besoin. Quant à moi, depuis que je médite chaque semaine, je ressens beaucoup plus l'esprit. Mon amour des écritures a grandi suite à mes efforts pour que la vertu orne sans cesse mes pensées. Réfléchissez à cette invitation de Néphi et à sa grande bénédiction. Si vous marchez résolument, vous faisant un festin de la parole du Christ et persévérez jusqu'à la fin, voici, ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. Si vous gardez à l'esprit cette idée de vous faire un festin de la parole de Christ, la méditation est comparable à un délicieux repas que l'on déguste en prenant bien le temps de mâcher chaque morceau très lentement pour pouvoir en retirer le plus. Allez-vous méditer un verset d'écriture chaque semaine jusqu'à la fin du mois? Jusqu'à la fin de l'année? Ou plus longtemps peut-être? Julie et moi avons invité tous nos vaillants missionnaires de la mission de Dallas au Texas à méditer avec nous pendant 20 ans. Nous passerons la ligne d'arrivée ensemble d'ici 17 petites années. Ensuite, nous nous fixerons un nouvel objectif pour édifier notre âme et nous rapprocher du Christ. Vous pouvez vérifier si nous le faisons en nous demandant « Quel est votre verset ?» Mais si vous le faites, alors soyez prêts à nous donner votre écriture à votre tour. Chacun d'entre nous sera inspiré par cet échange. Pouvez-vous imaginer à quel point cela changera votre vie, ainsi que celle de votre famille, si vous gravez un nouveau verset dans votre cœur et votre esprit chaque semaine, pendant les prochains mois, ou les prochaines années, ou plus longtemps encore? Jésus-Christ est notre exemple. Il a dû commencer à aimer les Écritures très jeune. Il a dû lire et méditer les Écritures dès son enfance pour avoir des discussions si prenantes avec les sages docteurs du Temple à l'âge de 12 ans. Il a commencé sa mission à l'âge de 30 ans et il a cité les Écritures dès le début, puis souvent tout au long de son ministère. Pouvons-nous dire avec assurance que Jésus a dû passer au moins 20 ans à étudier et à méditer les Écritures pour se préparer à sa mission? Avez-vous besoin de faire quelque chose pour vous préparer spirituellement aux occasions qui vous seront données d'enseigner ou de bénir votre famille et d'autres personnes? Pour résumer, j'espère que vous prendrez la décision de faire des économies chaque semaine, exercez votre foi, disciplinez-vous et faites-le. Je prie sincèrement aussi pour que vous choisissiez de méditer sur les paroles de Dieu continuellement et de manière plus approfondie chaque semaine. Exercez votre foi, disciplinez-vous et faites-le. Contrairement à ma première invitation à économiser de l'argent, tous les gains de ma deuxième invitation pour le salut de l'homme sont à vous pour toujours, protégés de la teigne et de la rouille du monde. Frère Christopherson nous a donné le conseil clair et la promesse suivante. Étudiez les Écritures soigneusement, de vous-même. Méditez et priez à leur sujet. Elles sont la révélation et elles vous apporteront des révélations supplémentaires. Je vous promets que vous ne regretterez pas d'écrire un verset d'Écriture dans votre esprit et votre cœur chaque semaine. Vous aurez perpétuellement l'impression d'avoir un but spirituel, de la protection et de la force. Souvenez-vous de ces paroles de Jésus-Christ. Faites ce que vous m'avez vu faire. Je prie pour que nous appliquions pleinement ces paroles dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Il y a un certain temps, quand je visitais l'Australie, je me suis rendu dans une magnifique baie en forme de fer à cheval réputée pour le surf. Pendant que je marchais le long de la plage, j'ai été émerveillé par la beauté des vagues immenses qui s'écrasaient juste au bord de la baie et les petites vagues qui déferlaient plus près du littoral. Tandis que je continuais ma promenade, je suis tombé sur un groupe de surfeurs des États-Unis. De toute évidence, quelque chose est contrarié. Ils parlaient fort en pointant la mer du doigt. Quand je leur ai demandé ce qui n'allait pas, ils ont pointé du doigt en direction de la baie, juste à l'extérieur, là où les grandes vagues s'écrasaient. « Regardez là-bas, » m'a dit l'un d'entre eux en colère. « Vous voyez la barrière ?» En regardant de plus près, j'ai pu voir en effet une barrière qui s'étendait tout le long de l'embouchure de la baie, à l'endroit exact où les grandes vagues qui les intéressaient venaient s'écraser. La barrière semblait être faite d'un matériau tissé résistant qui était maintenu par des flotteurs à la surface de l'eau. D'après les surfeurs, elle descendait jusqu'au fond de l'océan. Le surfeur américain a ajouté, « Nous avons fait le voyage de notre vie jusqu'ici pour surfer sur ces grosses vagues. Nous pouvons surfer sur les plus petites, qui s'écrasent à l'intérieur de la baie, mais la barrière nous empêche de surfer sur les grandes. Nous ne savons absolument pas pourquoi cette barrière se trouve là. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle a complètement gâché notre séjour. » Pendant que les surfeurs américains s'énervaient de plus en plus, mon attention était tirée par un autre surfeur non loin, un homme plus âgé, qui était vraisemblablement du coin. Il avait l'air de s'impatienter en les écoutant se plaindre de plus en plus de la barrière. Il a fini par se lever et s'approcher du groupe. Sans un mot, il a sorti une paire de jumelles de son sac à dos et les a tendues à l'un d'entre eux en pointant en direction de la barrière. Chaque surfeur a jeté un œil avec les jumelles. Quand ça a été mon tour, grâce au zoom, j'ai pu distinguer quelque chose que je n'avais pas pu voir avant. Des ailerons. Des gros requins se nourrissaient près du récif de l'autre côté de la barrière. Le groupe s'est vite calmé. Le vieux surfeur a récupéré ses jumelles, s'est retourné, prêt à partir. Il a prononcé des paroles que je n'oublierai jamais. Ne soyez pas si dur avec la barrière. C'est la seule chose qui vous empêche de vous faire dévorer. Debout sur cette plage magnifique, nous avions soudain une toute autre perspective, une barrière qui paraissait stricte et contraignante, qui semblait être un obstacle à l'amusement et au plaisir de chevaucher ces grandes vagues, était devenue quelque chose de très différent. Maintenant que nous étions au courant du danger qui nous guettait, juste en dessous de la surface, la barrière fournissait la protection, la sécurité et la paix. Pendant que vous et moi marchons sur le chemin de la vie, à la quête de nos rêves, les commandements et les critères divins, comme la barrière, peuvent parfois nous sembler difficiles à comprendre. Ils peuvent nous sembler stricts et intransigeants, et bloquer la voie qui mène à l'amusement et au plaisir que suivent tant d'autres. Comme l'apôtre Paul l'a décrit, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, avec une vision si limitée que souvent nous ne pouvons pas comprendre les grands dangers dissimulés juste en dessous de la surface. Mais celui qui comprend toutes choses sait exactement où ces dangers se cachent. Il nous donne la direction divine par l'intermédiaire de ses commandements et il nous guide avec amour pour que nous évitions ces dangers, pour que nous empruntions un chemin dans la vie qui sera protégé des prédateurs spirituels et de la gueule béante du péché. Nous montrons notre amour envers Dieu, ainsi que notre foi en lui, en suivant de notre mieux chaque jour le chemin qu'il nous a tracé et en respectant les commandements qu'il nous a donnés. Nous faisons preuve de cette foi et de cet amour, tout particulièrement dans les situations où nous ne comprenons pas totalement la raison d'être des commandements de Dieu ou le chemin qu'il nous demande de suivre. Il est relativement facile de choisir de suivre un chemin dans l'enceinte de la barrière à partir du moment où nous savons qu'il y a des prédateurs aux dents aiguisées qui grouillent juste à l'extérieur. Il est plus difficile de maintenir notre cap à l'intérieur de la barrière quand tout ce que nous voyons sont des vagues excitantes et attirantes de l'autre côté. Et pourtant, c'est dans ces moments-là, les moments où nous choisissons d'exercer notre foi, de faire confiance à Dieu et de lui montrer notre amour pour lui, que nous progressons le plus et que nous en tirons le plus grand profit. Dans le Nouveau Testament, Ananias ne comprenait pas l'ordre du Seigneur de chercher de bénir Saul, l'homme qui avait littéralement licence d'emprisonner les chrétiens. Pourtant, parce qu'il a obéi au commandement de Dieu, Ananias a été l'instrument de la naissance spirituelle de l'apôtre Paul. Quand nous faisons confiance au Seigneur, faisons preuve de foi, obéissons à ses commandements et suivons le chemin qu'il nous a tracé, nous devenons davantage la personne qu'il veut que nous devenions. C'est cette transformation, cette conversion du cœur qui est la plus importante. Comme Dallin H. Oaks l'a enseigné, je cite, « Il ne suffit pas d'agir superficiellement. Les commandements, les ordonnances et les alliances de l'Évangile ne sont pas la liste des dépôts à faire sur un compte céleste. L'Évangile de Jésus-Christ est un plan qui nous montre comment devenir ce que notre Père céleste désire que nous devenions. » Fin de citation. Par conséquent, la véritable obéissance consiste à nous donner entièrement à lui et à lui permettre de tracer notre route, que ce soit en eau calme ou en eau agitée, en comprenant qu'il peut faire de nous bien plus que nous ne pourrions par nous-mêmes. Lorsque nous nous soumettons à sa volonté, notre paix et notre bonheur grandissent. Le roi Benjamin enseignait que les gens qui respectent les commandements de Dieu sont bénis et bienheureux en tout, tant dans le temporel que dans le spirituel. Dieu veut que nous ayons de la joie. Il veut que nous ayons la paix. Il veut que nous réussissions. Il veut que nous soyons en sécurité et que nous soyons protégés des influences du monde qui nous entoure. En d'autres termes, les commandements du Seigneur ne sont pas un dédale sous-marin éprouvant constitué de barrières que nous devons apprendre à endurer à contre-cœur dans cette ville, dans cette vie, pour pouvoir être exaltés dans la suivante. Les barrières posées par le Seigneur, au contraire, créent un refuge pour nous protéger des influences destructrices qui nous entraîneraient dans les profondeurs du désespoir. Le Seigneur nous donne des commandements parce qu'il nous aime et se soucie de nous. Ils sont destinés à nous procurer joie et exaltation dans cette vie, tout comme à donner de la joie et l'exaltation dans la suivante. Il souligne la façon dont nous devrions agir. Et surtout, ils éclairent la voie pour que nous devenions ce que nous devons être. Tout comme dans tout ce qui est bon et vrai, Jésus-Christ est notre meilleur exemple. Le plus grand acte d'obéissance de toute l'éternité s'est produit lorsque le Fils s'est soumis à la volonté du Père, en demandant avec la plus grande humilité que la coupe lui soit enlevée, de sorte qu'il puisse passer par un autre chemin qui n'avait pas été tracé pour lui. Le Christ s'est soumis à la volonté du Père en s'astreignant à suivre le chemin qu'il voulait qu'il prenne. C'est un chemin qui l'a amené à Gethsémané et au Golgotha, où il a enduré une agonie et une souffrance inconcevables, et où il a été complètement abandonné lorsque l'esprit de son Père s'est retiré. Mais au bout de ce chemin se trouvait une tombe vide au troisième jour, avec des cris disant « Il est vivant, il est ressuscité », qui ont résonné dans les oreilles et dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Il y a aussi une joie et une consolation inimaginables grâce à son expiation pour tous les enfants de Dieu pour toute l'éternité. En permettant que sa volonté soit engloutie dans celle du Père, le Christ nous a offert l'espoir d'une paix infinie, d'une joie sans fin et la vie éternelle. Je témoigne que nous sommes les enfants d'un Dieu qui nous aime. Je témoigne qu'il veut que nous soyons heureux, en sécurité et bénis. C'est dans ce but qu'il nous a tracé un chemin qui ramène à lui et qu'il a posé des barrières qui nous protégeront le long de la route. En suivant ce chemin de notre mieux, nous trouverons la vraie sécurité, le bonheur et la paix. En nous soumettant à sa volonté, nous devenons ce qu'il désire que nous devenions. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Quand notre fille aînée, Jen, a ramené de la maternité son troisième bébé, je me suis rendue chez elle pour l'aider. Après avoir emmené sa fille aînée à l'école, nous avons décidé que ce dont Jen avait le plus besoin, c'était de se reposer. Alors la meilleure aide que je pouvais lui apporter, c'était d'emmener sa fille Chloé chez moi pour que sa mère et sa nouvelle petite sœur puissent avoir du calme. J'ai attaché Chloé dans son siège, j'ai mis ma ceinture de sécurité et nous avons quitté leur allée. Mais avant que nous soyons arrivés au bout de la rue, Chloé s'était détachée de son siège et, debout, regardait par-dessus mon épaule et me parlait. J'ai garé la voiture au bord de la rue, j'en suis sortie et je l'ai à nouveau attachée dans son siège. Nous avons redémarré, mais nous n'avions parcouru qu'une courte distance qu'elle s'était encore détachée de son siège. J'ai recommencé les mêmes étapes, mais cette fois-ci, je n'ai pas eu le temps de revenir à ma place et de m'attacher que Chloé était déjà debout. Je me retrouvais donc assise en voiture, garée le long de la rue, dans une lutte de pouvoir avec une fillette de 3 ans, et c'était elle qui gagnait. J'ai utilisé toutes les idées qui me passaient par la tête pour la convaincre que rester attachée dans son siège était une bonne idée, mais elle n'était pas convaincue. J'ai finalement décidé de tenter de marchander. J'ai dit, « Chloé, si tu restes attachée dans ton siège, dès que nous serons arrivés chez grand-mère, nous pourrons jouer avec de la pâte à modeler. » Aucune réaction. Chloé, si tu restes attachée dans ton siège, quand nous serons arrivés chez grand-mère, nous pourrons faire du pain. Aucune réaction. J'ai essayé une nouvelle fois. Chloé, si tu restes attachée dans ton siège, nous pourrons nous arrêter au magasin pour prendre une friandise. Après 3 tentatives, j'ai compris que cet exercice était inutile. Elle était déterminée et aucune proposition ne pouvait la convaincre de rester attachée dans son siège. Nous ne pouvions pas passer la journée assise au bord de la rue, mais je voulais obéir à la loi et ce n'était pas sûr de conduire avec Chloé debout à l'arrière. J'ai fait une prière silencieuse et j'ai entendu l'esprit me murmurer « Apprends-lui ». Je me suis retournée pour lui faire face et j'ai détaché ma ceinture pour qu'elle puisse la voir. Je lui ai dit, « Chloé, je mets cette ceinture parce qu'elle me protégera. Mais si tu ne mets pas ta ceinture, tu ne seras pas protégée. Et je serai très triste si tu te fais mal. » Elle m'a regardée. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa petite tête alors que j'attendais nerveusement sa réponse. Finalement, ses grands yeux bleus se sont illuminés et elle a répondu, « Grand-mère, tu veux que je mette ma ceinture parce que tu m'aimes. » L'esprit a rempli la voiture pendant que je lui exprimais mon amour. pour cette précieuse petite fille. Je ne voulais pas perdre ce sentiment, mais j'ai saisi l'occasion et je l'ai attachée dans son siège. Puis je lui ai demandé, « Chloé, tu veux bien rester dans ton siège ?» Et c'est ce qu'elle a fait, jusqu'au magasin pour sa friandise. Elle a également resté attachée du magasin jusqu'à la maison. Nous avons fait du pain et joué avec de la pâte à modeler parce que Chloé n'avait pas oublié. En voiture sur la route ce jour-là, une écriture m'est venue en tête. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous avons des règles pour enseigner, guider et protéger nos enfants. Pourquoi? En raison du grand amour que nous avons pour eux. Mais tant que Chloé ne comprenait pas que je désirais qu'elle reste attachée en toute sécurité dans son siège de voiture parce que je l'aime, elle ne voulait pas se soumettre à ce qui, à ses yeux, était une restriction. Elle trouvait que sa ceinture limitait sa liberté. Tout comme Chloé, nous pouvons choisir de voir les commandements comme des restrictions. Nous pouvons trouver parfois que les lois de Dieu restreignent notre liberté personnelle, nous privent de notre libre arbitre et limitent notre progression. Mais si nous cherchons à mieux comprendre, si nous permettons à notre Père de nous instruire, nous commençons à entrevoir que ces lois sont une manifestation de son amour pour nous et que notre obéissance à ces lois est une expression de notre amour pour lui. Si vous vous trouvez, pour ainsi dire, garé au bord d'une rue, je vous suggère quelques principes qui, si vous les suivez, vous aideront à revenir en toute sécurité sur la route de la foi et de l'obéissance. Premièrement, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en son plan éternel pour vous. Chacun de vous est un fils ou une fille aimée de parents célestes. Leur amour pour nous se manifeste dans les commandements. Les commandements sont des instructions vitales pour nous instruire, nous guider et nous protéger, tandis que nous acquérons de l'expérience sur la terre. Dans la sphère prémortelle, nous avons exercé notre libre arbitre pour accepter le plan de Dieu, et nous avons appris que l'obéissance à la loi éternelle de Dieu était essentielle pour notre réussite dans son plan. Les Écritures enseignent, il y a une loi, irrévocablement décrétée dans les cieux avant la fondation de ce monde, sur laquelle reposent toutes les bénédictions. Si nous obéissons à la loi, nous recevrons les bénédictions. Malgré toutes les erreurs, l'opposition et l'apprentissage qui accompagnent notre expérience de la condition mortelle, contrairement à nous, Dieu ne perd jamais de vue notre potentiel éternel. Nous pouvons lui faire confiance, parce qu'il veut que ses enfants reviennent auprès de lui. Et il nous a donné un moyen pour y parvenir par l'expiation de son Fils, Jésus-Christ. L'expiation est au cœur du plan de salut. Deuxièmement, ayez confiance en Jésus. L'expression suprême d'obéissance et d'amour pur est l'expiation de Jésus-Christ. Il s'est soumis à la volonté du Père et a donné sa vie pour nous. Il a dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Jésus a enseigné aussi, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Chaque dimanche, nous avons l'occasion de méditer et de nous souvenir de l'amour pur de notre Sauveur en prenant les emblèmes de son expiation infinie. Pendant la Sainte Cène, je regarde les mains et les bras se tendre pour distribuer le pain et l'eau. Et quand je tends le bras et que j'en prends, je fais alliance que je veux prendre sur moi son nom pour me souvenir toujours de lui et garder ses commandements. Et il promet que nous pourrons toujours avoir son esprit avec nous. Troisièmement, faites confiance au murmure de l'esprit. Vous souvenez-vous que, dans mon expérience avec Chloé, l'esprit m'a soufflé une écriture? C'est Jean, chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et ces versets importants suivent. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Chaque membre confirmé, digne de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, a droit à la compagnie du Saint-Esprit. Le jeûne, la prière, l'étude des Écritures et l'obéissance augmentent grandement notre capacité d'entendre et de ressentir les incitations de l'Esprit. Quand votre esprit sera rempli de doutes et de confusion, le Père et le Fils enverront le Saint-Esprit pour vous avertir et vous guider en toute sécurité à travers les dangers de la condition mortelle. Il vous aidera à vous souvenir, vous consolera et vous emplira d'espoir et d'amour parfait. Quatrièmement, faites confiance au prophète actuel. Notre Père nous a donné le moyen d'entendre sa parole et de connaître sa loi par l'intermédiaire de ses prophètes. Le Seigneur a déclaré, « Ma parole s'accomplira entièrement, que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c'est la même chose. » Récemment, des prophètes vivants nous ont recommandé de nous souvenir du jour du sabbat et de le sanctifier et de vivre la joie du jeûne. L'obéissance à ce conseil des prophètes nous donne un moyen d'être obéissant au commandement de Dieu, de l'aimer et d'aimer notre prochain en faisant grandir notre foi en Jésus-Christ et de tendre la main pour aimer les autres et veiller sur eux. Il y a de la sécurité à suivre la parole de ce que le Seigneur nous donne par l'intermédiaire de ses prophètes. Dieu a appelé Thomas S. Munson, les conseillers dans la première présidence et les membres du collège des douze apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Dans ce monde où il y a de plus en plus de peur, de distraction, d'adversité et de colère, nous pouvons les regarder pour voir à quoi ressemble un disciple de Jésus-Christ empli de charité et comment il réagit aux problèmes sujets à polémique. Les prophètes témoignent de Jésus-Christ et agissent avec charité, l'amour pur du Christ dont ils sont témoins. Après mon expérience avec Chloé, je cherchais dans les Écritures des versets mentionnant les commandements et l'amour. J'en ai trouvé beaucoup. Ces commandements sont une manifestation de son amour pour nous, et l'obéissance à ces commandements est une expression de notre amour pour lui. Je témoigne qu'en ayant confiance en Dieu, notre Père éternel, confiance en son Fils, Jésus-Christ, en ayant confiance en son expiation, en faisant confiance aux murmures de l'Esprit et les recommandations des prophètes actuels, nous saurons comment nous éloigner du bord de la route et continuer en toute sécurité notre voyage de retour jusqu'à notre foyer, en faisant plus que persévérer, en y trouvant de la joie. Au nom de Jésus-Christ, amen.
On a signal from the conductor.
Au signal du directeur de la musique, l'assemblée se lèvera et se joindra au chœur pour chanter Hosanna au grand roi. Nous entendrons ensuite Allen Henny, Kim Clark et Koichi Aoyagi des 70. Nous remercions Frère Aoyagi qui a été relevé hier après-midi de son appel au sein des 70. Après leur discours, le chœur chantera « Le monde a besoin d'ouvriers ». Puis nous écouterons David Bednar du Collège des 12 apôtres qui sera notre dernier orateur.
This is the 185th.
Vous assistez à la 185e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours.
Thank you.
Lorsque j'avais 9 ans, ma grand-mère maternelle, aux cheveux blancs et mesurant 1,50 m, est venue passer quelques semaines chez nous. Un après-midi, alors qu'elle était là, mes deux frères aînés et moi avons décidé de creuser un trou dans un champ de l'autre côté de la rue, en face de notre maison. J'ignore pourquoi nous avons fait ça. Parfois, les garçons creusent des trous. Nous sommes salis un petit peu sans que ça puisse nous attirer trop d'ennuis. Voyant comme ça était passionnant, d'autres garçons du quartier ont commencé à nous aider. Nous sommes ensuite salis tous ensemble. Comme la terre était dure, nous avons traîné un tuyau d'arrosage jusque-là et avons versé un petit peu d'eau au fond du trou afin de la ramollir. En creusant, nous nous sommes tachés avec la boue, mais le trou devenait de plus en plus profond. L'un de nous a décidé que nous devions faire une piscine, et nous l'avons donc remplie d'eau. Comme j'étais le plus jeune et que je désirais d'être accepté, on m'a persuadé d'y sauter et de l'essayer. À présent, j'étais vraiment sale. Au début, j'avais pas prévu d'être couvert de boue, mais c'est ainsi que j'ai fini. Lorsqu'il a commencé à faire froid, j'ai traversé la rue avec l'intention de rentrer à la maison. Ma grand-mère m'a accueilli à la porte et elle a refusé de me laisser rentrer. Elle m'a dit que si elle le permettait, j'apporterais de la boue dans la maison qu'elle venait juste de nettoyer. J'ai alors fait ce que tout enfant de 9 ans aurait fait dans cette situation. J'ai couru à la porte de derrière, mais elle était plus rapide que je pensais. Je me suis énervé, j'ai tapé du pied et j'ai exigé de rentrer. Mais la porte est restée fermée. J'étais mouillé, recouvert de boue et j'avais froid. Dans mon imagination d'enfant, je pensais que je pourrais mourir dans mon propre jardin. Finalement, je lui ai demandé ce que je devais faire pour rentrer. Et avant que je m'en rende compte, je me suis retrouvé debout dans l'arrière-cour et ma grand-mère m'aspergeait d'eau à l'aide d'un tuyau. Au bout d'un moment, qui m'a paru une éternité, ma grand-mère a jugé que j'étais propre et m'a permis d'entrer dans la maison. Il faisait bien chaud à l'intérieur et j'ai pu enfiler des vêtements propres et secs. Réfléchissez à cette parabole tirée d'une expérience vécue et prêtez attention à ces paroles de Jésus-Christ. Et rien d'impur ne peut entrer dans son royaume. C'est pourquoi rien n'entre dans son repos, si ce n'est ceux qui ont lavé leurs vêtements dans mon sang à cause de leur foi et du repentir de tous leurs péchés et de leur fidélité jusqu'à la fin. Rester dehors et être aspergé d'eau par ma grand-mère, c'était désagréable. Se voir refuser de retourner dans la présence de notre Père Céleste pour avoir choisi de rester dans le trou boueux de nos péchés ou d'en conserver les taches serait une tragédie éternelle. Ne nous berçons pas d'illusions au sujet des conditions requises pour revenir et demeurer auprès de notre Père Céleste. Nous devons être propres. Avant de venir sur Terre, nous avons participé, comme fils et filles d'Esprit de Dieu, à un grand conseil. Chacun de nous était attentif et personne ne s'est endormi. Lors de ce conseil, notre Père Céleste a présenté un plan. Il savait que nous commettrions des péchés, puisque ce plan préservait notre libre arbitre et prévoyait que nous apprenions de notre expérience et pas seulement de la sienne. Il savait également que le péché nous laisserait impurs et incapables de retourner en sa présence, car le lieu où il vit est encore plus propre qu'une maison nettoyée par ma grand-mère. Notre Père Céleste nous aime et il a pour dessein de réaliser notre immortalité et notre vie éternelle. Son plan incluait donc l'intervention d'un sauveur, quelqu'un qui nous aiderait à devenir pur, quel que soit notre état de souillure. Je pense que quand notre Père Céleste a annoncé le besoin d'un sauveur, nous avons regardé en direction de Jésus-Christ, son premier enfant d'esprit, celui qui avait progressé au point de devenir comme le Père. Je pense que nous avons tous su que ce devait être lui, que nul d'entre nous ne pourrait remplir ce rôle, mais qu'il le pourrait et le ferait. Dans le jardin de Gethsémané et sur la croix du Golgotha, Jésus-Christ a souffert de corps et d'esprit, a tremblé de douleur, a saigné à chaque pore et a supplié son Père d'éloigner de lui la coupe amère. Toutefois, il l'a quand même bu. Pourquoi l'a-t-il fait? Il dit lui-même qu'il voulait glorifier son Père et terminer tout ce qu'il avait préparé pour les enfants des hommes. Il voulait respecter son alliance et permettre que nous retournions au foyer. Que nous a-t-il demandé en retour? Il nous supplie simplement de confesser nos péchés et de nous repentir afin que nous n'ayons pas à souffrir tout comme lui. Il nous invite à devenir purs afin de ne pas être laissés à la porte de la maison de notre Père Céleste. Il vaut mieux éviter le péché. Toutefois, l'expiation du Sauveur opérera, quel que soit le type de péché que nous avons commis ou la profondeur que nous avons atteinte dans le trou de mon histoire. Peu importe si nous sommes honteux et embarrassés par les péchés qui, comme le prophète Néphie l'a dit, nous enveloppent si facilement. Peu importe si nous avons une fois échangé notre droit d'aînesse contre un ragoût. Ce qui compte vraiment, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a souffert des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple. Ce qui compte, c'est qu'il a consenti de venir sur terre et de descendre au-dessous de tout, et de souffrir davantage d'opposition qu'un homme ait jamais pu supporter. Ce qui compte, c'est que le Christ plaide notre cause devant le Père, disant « Père, vois les souffrances et la mort de celui qui n'a commis aucun péché, en qui tu te complaisais. C'est pourquoi, Père, épargne ceux-ci, mes frères, qui croient en moi, afin qu'ils viennent à moi et qu'ils aient la vie éternelle. » Voilà ce qui importe vraiment, et ce qui devrait raviver notre espoir et notre détermination d'essayer de nouveau, parce qu'il ne nous a pas oubliés. Je témoigne que le Sauveur ne se détournera jamais de nous lorsque nous le recherchons humblement afin de nous repentir, qu'il ne nous considérera jamais comme une cause perdue, qu'il ne dira jamais « Oh non, pas encore toi », qu'il ne nous rejettera pas, faute de comprendre combien il est difficile de s'abstenir de péché. Il comprend tout cela parfaitement. Il comprend également le chagrin, la honte et le découragement qui sont les conséquences inévitables du péché. Le repentir est réel, il est efficace. Ce n'est pas une expérience imaginaire ou le produit d'un esprit en délire. Le repentir a le pouvoir d'alléger nos fardeaux et de les remplacer par l'espoir. Il peut produire un grand changement de cœur qui fait que nous n'avons plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. Le repentir n'est nécessairement pas facile. Ce qui a une portée éternelle l'est rarement. Mais le résultat en vaut la peine. Boyd K. Packer a témoigné lors de son dernier discours adressé aux 70 de l'Église, je cite, « L'idée est la suivante. L'expiation ne laisse aucune trace. Ce qu'elle répare est réparé. L'expiation ne laisse aucune trace. Elle guérit tout simplement et ce qu'elle guérit reste guéri. » Fin de citation. Ainsi, notre espoir de vivre à nouveau avec notre Père repose sur l'expiation de Jésus-Christ, sur la disposition du seul être qui n'ait jamais péché à prendre sur lui, bien que cela contraste de manière saisissante avec les exigences de la justice, tout le poids des transgressions du genre humain, y compris les péchés de certains fils et filles de Dieu qui décident inutilement de souffrir seuls pour leurs péchés. Nous, membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, attribuons un plus grand pouvoir à l'expiation du Sauveur que la plupart des gens, car nous savons que si nous contractons des alliances, nous repentons quotidiennement et endurons jusqu'à la fin, il fera de nous ses co-héritiers, et comme lui, nous recevrons tout ce que le Père a. C'est une doctrine stupéfiante, mais pourtant elle est vraie. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons répondre à l'invitation lancée par le Sauveur, « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait », sans éprouver de frustration à l'idée d'un objectif hors d'atteinte. Les Écritures nous enseignent que tous les hommes doivent être jugés selon le saint jugement de Dieu. Ce jour-là, nous n'aurons pas la possibilité de nous fondre dans la masse ou de justifier notre souillure en pointant d'autres du doigt. Heureusement, les Écritures enseignent également que le Christ, lui qui a souffert pour nos péchés, qui est notre avocat auprès du Père, qui nous appelle ses amis et qui nous aime jusqu'à la fin, sera notre juge final. L'une des bénédictions souvent oubliées de l'expiation de Jésus-Christ, c'est que le Père a remis tout jugement au Fils. Frères et sœurs, si vous êtes découragés, vous demandez si vous pourrez jamais sortir du trou spirituel que vous avez creusé. S'il vous plaît, souvenez-vous qui se tient entre vous et la justice. Qui est rempli de compassion envers les enfants des hommes? Et qui a pris sur lui nos iniquités et nos transgressions et a satisfait aux exigences de la justice? En d'autres termes, de même qu'a fait Néphi alors qu'il doutait de lui-même, rappelez-vous simplement en qui vous avez mis votre confiance, en Jésus-Christ. Ensuite, repentez-vous et éprouvez de nouveau, malgré tout, une espérance d'une pureté parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Au cours de son ministère terrestre, Jésus a accompli de si grands miracles de guérison et a enseigné avec tant d'autorité et de pouvoir que les Écritures disent que sa renommée se répandit dans toute la Syrie et qu'une grande foule le suivit. Certaines des personnes qui ont été témoins de ses guérisons et l'ont vu enseigner l'ont rejeté. D'autres l'ont suivi pour un temps, puis se sont retirés. Le Seigneur Jésus-Christ était devant eux, mais elles ne voyaient pas qui il était vraiment. Elles étaient aveugles et avaient choisi de se détourner de lui. Jésus a dit d'elles, « Je suis venu chez les miens et les miens ne m'ont pas reçu. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. » Cependant, beaucoup d'hommes et de femmes, entre autres ses fidèles apôtres, l'avaient placé au centre de leur vie. Malgré les difficultés causées par les distractions du monde, la perplexité quant à ses enseignements et même la peur, ils croyaient en lui, l'aimaient et le suivaient. Jésus a dit d'eux, « Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Peu avant de souffrir à Gethsémané, puis au calvaire, Jésus a fait à ses disciples cette magnifique promesse, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Il a tout d'abord tenu cette promesse. À partir du jour de la Pentecôte, les disciples ont eu la bénédiction d'être baptisés de feu et de Saint-Esprit, grâce à leur foi au Christ, à leur repentir et à leur obéissance. Le Saint-Esprit est devenu leur compagnon, a changé leur cœur et leur a donné le témoignage constant de la vérité. Ces dons et ces bénédictions ont renforcé les disciples du Seigneur. Malgré l'époque dangereuse et pleine de confusion à laquelle ils vivaient, ils avaient reçu le don spirituel d'avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Par le pouvoir du Saint-Esprit, ils ont commencé à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, en particulier au sujet du Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre parmi eux. Le Saint-Esprit a éclairé leur compréhension et ils ont entendu plus clairement la voix du Seigneur. L'évangile de Jésus-Christ s'est plus profondément ancré dans leur cœur. Ils étaient constants et obéissants. Ils prêchaient l'évangile avec hardiesse et pouvoir et édifiaient le royaume de Dieu. Leur joie était dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons beaucoup en commun avec ces hommes et ces femmes fidèles du midi des temps. Nous vivons, nous aussi, à une époque où le Seigneur Jésus-Christ accomplit des miracles parmi nous. Il guérit les malades, nous purifie du péché, change notre cœur et offre le salut à tous les enfants de Dieu des deux côtés du voile. De nos jours, nous avons aussi des prophètes et des apôtres vivants, le pouvoir de la prêtrise, des dons spirituels et les bénédictions divines des ordonnances salvatrices. Notre époque est tout aussi dangereuse. C'est une époque de grands maux et de tentations, une époque de confusion et de tumulte. En ces temps périlleux, le prophète du Seigneur sur la terre, Thomas S. Monson, nous a appelés à secourir les esprits blessés, à défendre la vérité avec courage et à édifier le royaume de Dieu. Quel que soit le niveau de spiritualité, de foi ou d'obéissance qui est le nôtre actuellement, cela ne suffira pas pour l'œuvre qui nous attend. Notre lumière et notre pouvoir spirituel doivent être plus grands. Nous avons besoin de Dieu qui voit plus clairement le Sauveur œuvrer dans notre vie et d'oreilles qui entendent plus profondément sa voix dans notre cœur. Cette bénédiction merveilleuse nous est donnée quand nous ouvrons notre cœur et recevons, accueillons réellement le Seigneur Jésus-Christ, sa doctrine et son Église dans notre vie. Nous n'avons pas à être parfaits, mais nous devons être bons et nous améliorer. Nous devons nous efforcer de vivre les vérités simples et pures de l'Évangile. Si nous prenons sur nous le nom du Christ, agissons avec foi en lui jusqu'à nous repentir de nos péchés, respectons ses commandements et nous souvenons toujours de lui, nous aurons la compagnie du Saint-Esprit par la miséricorde et la grâce de Jésus-Christ. La simple obéissance apporte l'Esprit dans notre cœur. Dans nos foyers, nous prions avec foi, sondons les Écritures et sanctifions le jour du sabbat. Dans nos églises, nous prenons la Sainte Cène et faisons des promesses sacrées à notre Père Céleste au nom du Christ. Dans les saints temples, nous prenons part aux ordonnances sacrées pour nos frères et sœurs de l'autre côté du voile. Dans nos familles et dans les tâches que le Seigneur nous confie, nous nous tournons vers les autres, allégeons leurs fardeaux et les invitons à aller au Christ. Frères et sœurs, je sais que si nous faisons ces choses, le Saint-Esprit viendra. Nous grandirons spirituellement et gagnerons de l'expérience avec le Saint-Esprit, et il sera notre compagnon. Si nous tournons les regards vers le Christ et ouvrons nos yeux et nos oreilles, le Saint-Esprit nous permettra de voir le Seigneur Jésus-Christ œuvrer dans notre vie, renforcer notre foi en lui par une plus grande assurance et un plus grand témoignage. Nous verrons de plus en plus nos frères et sœurs comme Dieu les voit, avec amour et compassion. Nous entendrons la voix du Sauveur dans les Écritures, dans les murmures de l'Esprit et dans les paroles des prophètes vivants. Nous verrons le pouvoir de Dieu reposer sur son prophète et tous les dirigeants de son Église vraie et vivante. Et nous saurons avec assurance que c'est l'œuvre sainte de Dieu. Nous verrons et comprendrons nous-mêmes le monde qui nous entoure, tout comme le Sauveur. Nous aurons ce que l'apôtre Paul appelait la pensée de Christ. Nous aurons des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et nous édifierons le royaume de Dieu. La vie peut parfois être difficile, déroutante, douloureuse et décourageante. Je vous témoigne que grâce à la compagnie du Saint-Esprit, la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ dispersera la confusion, la douleur et l'obscurité. Qu'il se manifeste en grands éclats ou par un doux flux, ce pouvoir spirituel glorieux remplira l'âme blessée et repentante d'amour guérisseur et de consolation. Il dissipera les ténèbres au moyen de la lumière de la vérité et le découragement par l'espérance en Christ. Nous verrons ces bénédictions et nous saurons par le témoignage de l'Esprit que le Seigneur Jésus-Christ agit dans notre vie. Nos fardeaux seront véritablement absorbés dans la joie de notre Rédempteur. Une expérience que mon père et ma mère ont eue il y a des années illustre l'importance et le pouvoir des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. En 1982, mes parents ont été appelés à servir dans la mission de Davao, aux Philippines. Quand ma mère a ouvert la lettre et a vu où ils serviraient, elle a crié à mon père, « Non, tu dois les appeler et leur dire que nous ne pouvons pas aller aux Philippines. Ils savent que tu as de l'asthme. » Mon père avait de l'asthme depuis plusieurs années et ma mère s'inquiétait beaucoup pour lui. Quelques nuits plus tard, ma mère réveilla mon père vers 2h30 du matin et lui dit, « Merlin, as-tu entendu la voix ?»« Non, je n'ai entendu aucune voix. » »« J'ai entendu cette nuit 3 fois, la même voix, qui disait, « Pourquoi t'inquiètes-tu ? Ne sais-tu pas que je sais qu'il a de l'asthme ? Je prendrai soin de lui et je prendrai soin de toi. Prépare-toi à servir aux Philippines. » Mon père et ma mère ont servi aux Philippines et ont vécu une expérience merveilleuse. Le Saint-Esprit fut leur compagnon. Elles furent bénies et protégées. Mon père n'a jamais eu de problème avec son asthme. Il a été premier conseiller dans la présidence de mission et ma mère et lui ont formé des centaines de missionnaires et des milliers de membres fidèles en vue de futures paroisses et de futurs pieux qui seraient organisés sur l'île de Mindanao. Ils ont eu la bénédiction d'avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Mes frères et sœurs, je rends témoignage de Jésus-Christ. Je sais qu'il vit. Il est notre Sauveur et notre Rédempteur. Je sais que si nous l'acceptons dans notre vie et acceptons les vérités simples et pures de son Évangile, nous jouirons de la compagnie du Saint-Esprit. Nous recevrons le précieux don d'avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Le 11 mars 2011, je me trouvais sur le quai de la gare de Shinagawa à Tokyo et je partais rendre visite à la mission de Kobe. Vers 14h46, il s'est produit un immense tremblement de terre de magnitude 9. Les secousses étaient si intenses que je ne pouvais me tenir debout. Et je me suis accroché à une rampe d'escalier. Les luminaires du plafond, à proximité de moi, ont commencé à tomber. Toute la ville de Tokyo paniquait. Par chance, je n'ai pas été blessé. Et 4 heures plus tard, j'étais soulagé d'apprendre que toute ma famille allait bien. On voyait à la télévision un flux continu de séquences terrifiantes. Un immense tsunami s'était abattu sur la région de la mission de Sendai, dévastant tout sur son passage, voitures, maisons, usines et champs. J'étais abasourdi par ces images tragiques et je me suis mis à pleurer. J'ai prié avec ferveur notre Père Céleste de protéger et soutenir les gens qui vivaient dans cette région que j'aimais tant. Un peu plus tard, j'ai eu la confirmation que tous les missionnaires et tous les membres de l'Église étaient sains et saufs. Cependant, de nombreux membres avaient été touchés et avaient perdu des proches, leurs maisons ou des biens matériels. Plus de 20 000 personnes avaient péri. Des quartiers entiers avaient été détruits et beaucoup de gens avaient été forcés de quitter leur domicile à cause de l'accident de la centrale nucléaire. Des catastrophes comme celle-là ravagent aujourd'hui de nombreuses parties du globe, provoquant la mort d'un grand nombre de personnes. Nous avons été avertis que des catastrophes, des guerres et d'innombrables difficultés surviendront. Lorsque des épreuves de ce genre se produisent soudain dans notre vie, nous pourrions nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» ou « Pourquoi dois-je souffrir ?» Pendant une longue période après ma conversion à l'Évangile, je n'avais pas de réponse claire à la question « Pourquoi ai-je des épreuves ?» J'ai compris que le plan du salut impliquait que l'on soit éprouvé. Cependant, en réalité, lorsque cette question surgissait, ma conviction n'était pas assez grande pour y répondre de façon adéquate. Mais à un moment de ma vie, j'ai moi aussi vécu une grande épreuve. Lorsque j'avais 30 ans, j'étais en visite dans la mission de Nagoya, dans le cadre de mon travail. Après une réunion, le président de mission a gentiment demandé aux missionnaires de me raccompagner à l'aéroport. Cependant, alors que nous arrivions à une intersection en bas d'une longue colline, un gros camion a dévalé la pente derrière nous, à grande vitesse. Il a percuté l'arrière de notre voiture et l'a propulsé sur plus de 20 mètres. Le plus terrifiant dans tout cela, c'est qu'il n'y avait pas de conducteur. L'arrière de notre véhicule a été enfoncé sur la moitié de sa longueur d'origine. Heureusement, les deux missionnaires et moi-même avons survécu. Toutefois, le lendemain, j'ai commencé à ressentir une douleur dans le cou et les épaules, ainsi que de sévères migraines. À partir de ce jour-là, il m'a été impossible de dormir et j'étais contraint de vivre avec cette souffrance physique et mentale au quotidien. J'ai imploré Dieu de me guérir de ma douleur. mais ses symptômes ont persisté pendant environ 10 ans. À cette époque, le doute s'est immiscé dans mon esprit et je me suis demandé, pourquoi dois-je souffrir autant? Néanmoins, bien que le genre de guérison auquel j'aspirais ne me soit pas accordé, je m'efforçais de respecter fidèlement les commandements de Dieu. Je continuais à prier pour être capable de trouver des réponses aux questions que j'avais concernant mes épreuves. Et puis le moment est venu où j'ai dû faire face à une autre épreuve personnelle. Et j'étais troublé, car je ne savais pas comment gérer cette nouvelle difficulté. J'ai prié pour recevoir une réponse, mais je n'en ai pas reçu immédiatement. Alors, je suis allé trouver un dirigeant de l'Église en qui j'avais confiance. Pendant notre conversation, il m'a dit avec beaucoup d'amour, « Frère Aoyagi, n'est-ce pas votre but, ici-bas sur Terre, de vivre cette épreuve ? Ne vaut-il pas mieux accepter les épreuves de cette vie pour ce qu'elles sont et laisser le reste au Seigneur ? Ne croyez pas que ce problème sera résolu lorsque nous serons ressuscités ? Lorsque j'ai entendu ces paroles, j'ai ressenti très fortement l'Esprit du Seigneur. J'avais entendu cet enseignement d'innombrables fois, mais les yeux de mon entendement n'avaient jamais été ouverts comme ils l'ont été cette fois-ci. J'ai alors compris que c'était la réponse que j'avais demandée en prière au Seigneur. J'ai pu comprendre clairement le plan de salut de notre Père Céleste et mieux saisir ce principe important. Dans le livre d'Abraham, le Seigneur Dieu déclare, « Nous les mettrons ainsi à l'épreuve, pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera. » Le Dieu qui a créé les cieux et la terre connaît le grand dessein qui a présidé à la création de celle-ci. Il a le pouvoir sur toutes choses, dans les cieux comme sur la terre. Et pour accomplir le plan de salut, il nous permet de vivre de nombreuses expériences, et notamment des épreuves, au cours de notre vie ici-bas. Le Seigneur a dit la chose suivante à Joseph Smith. Sache, mon fils, que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Maintiens-toi donc sur ta route, car Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. Les épreuves de cette terre, parmi lesquelles la maladie et la mort, font partie du plan du salut et sont d'inévitables expériences. Il est nécessaire que nous nous maintenions sur notre route et acceptions nos épreuves avec foi. Toutefois, le but de notre vie n'est pas uniquement de subir des épreuves. Notre Père Céleste a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, afin que nous puissions surmonter les épreuves auxquelles nous faisons face sur cette terre. En d'autres termes, il renforce pour nous les choses qui sont faibles. Il expie pour nos péchés et nos imperfections et rend possible pour nous l'obtention de l'immortalité et de la vie éternelle. Henry Beiring a dit, « Mais l'épreuve qu'un Dieu aimant nous a impartie n'est pas destinée à montrer si nous pouvons supporter les difficultés. Elle est destinée à montrer si nous pouvons bien les supporter. Nous réussissons l'épreuve en montrant que nous nous souvenons de lui et des commandements qu'il nous a donnés. Nous maintenir sur notre route est un choix décisif dans les moments d'épreuve. Tournons notre cœur vers Dieu, tout particulièrement lorsque nous rencontrons des difficultés. Obéissons humblement aux commandements de Dieu. Faisons preuve de foi en accordant notre volonté à celle de Dieu. Revenons maintenant à mon histoire de collision à Nagoya. J'aurais pu mourir dans cet accident. Néanmoins, par la grâce du Seigneur, j'ai miraculeusement survécu. Et je sais que mes souffrances avaient pour but de me permettre d'apprendre et de progresser. Mon Père Céleste m'a formé pour apprendre la patience, pour que j'acquière de l'empathie et pour que je sache comment réconforter ceux qui souffrent. Quand j'ai compris cela, mon cœur s'est rempli de gratitude envers mon Père Céleste pour cette épreuve. Mettez Dieu au premier plan de votre vie, quelles que soient les épreuves auxquelles vous faites face. Aimez Dieu, ayez foi au Christ, et mettez votre confiance en lui en toutes choses. Moroni fait la promesse suivante aux personnes qui le font. Et si vous vous refusez toute impiété, et aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée et de toute votre force, alors sa grâce vous suffit, afin que par sa grâce, vous soyez parfaits dans le Christ. Je témoigne sincèrement que Dieu et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, vivent, et que la promesse divine faite à ceux qui l'aiment et se maintiennent sur leur route s'accomplira, même au milieu des épreuves. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
In 1996, President Gordon B. Hinckley,
en 1996, Gordon B. Hinckley était l'invité de 60 minutes, émission télévisée nationale d'information. Mike Wallace, un journaliste expérimenté et tenace, a interviewé le président Hinckley sur plusieurs sujets importants. Vers la fin de la discussion, M. Wallace a fait la remarque suivante. Des gens disent « C'est une gérontocratie, c'est une église dirigée par des vieillards ». Le président Hinckley a répondu joyeusement et sans hésitation. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un homme mature à la tête, un homme sage qui ne se laisse pas influencer par tout vent de doctrine? Mon but est d'expliquer pourquoi il est en effet merveilleux d'avoir des hommes plus âgés, d'une grande sagesse et d'une grande maturité spirituelle à des postes de direction de l'Église rétablie de Jésus-Christ. Et pourquoi nous devons les écouter et ouvrir les oreilles aux enseignements de ces hommes que le Seigneur a choisis pour rendre témoignage de son nom parmi toutes les nations, familles, langues et peuples. Je prie pour que nous soyons tous instruits par le Saint-Esprit, tandis que nous réfléchissons ensemble à ce sujet important. Je parle de ce sujet d'un point de vue résolument différent. Pendant ces 11 dernières années, j'ai été le plus jeune membre du Collège des 12. Pendant mes années de service, la moyenne d'âge des hommes servant dans la première présidence et au Collège des 12 apôtres était de 77 ans. La moyenne d'âge la plus élevée sur une période de 11 ans dans cette dispensation. L'expérience et les idées personnelles, professionnelles, ecclésiastiques et collectives des membres du collège avec lesquels je sers ont été des bénédictions pour moi. Un exemple de ma relation avec Robert Hales témoigne des occasions remarquables que j'ai d'apprendre de ses dirigeants et de servir avec eux. Il y a quelques années, j'ai passé un dimanche après-midi avec frère Hales chez lui, tandis qu'il se rétablissait d'une maladie grave. Nous avons discuté de nos familles, de nos responsabilités dans le collège et d'expériences importantes. À un moment, j'ai demandé à frère Hales, « Vous avez été un mari, un père, un sportif, un homme d'affaires et un dirigeant de l'Église accompli. Quelles leçons avez-vous apprises en vieillissant et en étant restreint par la diminution de vos capacités physiques ?» Frère Hales a marqué une pause, puis a répondu, « Quand on ne peut plus faire ce qu'on a toujours fait, alors on ne fait plus que ce qui compte le plus. » J'ai été frappé par la simplicité et l'exhaustivité de sa réponse. Mon compagnon de service apostolique bien-aimé me donnait la leçon de toute une vie, une leçon apprise dans le creuset de la souffrance physique et de la quête spirituelle. Les limitations physiques, qui sont les conséquences naturelles de l'avancée en âge, peuvent en fait devenir des sources remarquables d'apprentissage et de perception spirituelle. Ces mêmes facteurs, considérés par beaucoup comme des limites à l'efficacité de ses serviteurs, peuvent devenir certaines de leurs plus grandes forces. Les restrictions physiques peuvent élargir la vision. Une endurance limitée peut clarifier les priorités. L'incapacité de faire de nombreuses choses peut diriger l'attention sur celles qui sont de plus grande importance. Certaines personnes ont suggéré qu'il faut des dirigeants plus jeunes et plus vigoureux dans l'Église pour répondre efficacement aux graves problèmes de notre monde moderne. Mais le Seigneur ne se sert pas des philosophies et des pratiques contemporaines en matière de direction pour accomplir ses desseins. Nous pouvons nous attendre à ce que le président et les autres hauts dirigeants de l'Église soient toujours des hommes plus âgés et d'une grande spiritualité et d'expérience. Le modèle de direction de l'Église par les conseils révélés par le Seigneur pallie les fragilités humaines et en atténue l'impact. Il est intéressant que les limites mortelles de ces hommes affirment en fait la source divine des révélations qu'ils reçoivent ou que l'on reçoit à travers eux. Oui, ces hommes sont appelés de Dieu par prophétie. J'ai vu chez mes frères, au moins partiellement, pourquoi le Seigneur place des hommes plus âgés, matures et sages à des postes élevés de l'Église. Ces hommes sont passés par une période soutenue de tutorat par le Seigneur qu'ils représentent, servent et aiment. Ils ont appris à comprendre le langage divin du Saint-Esprit et les modèles du Seigneur pour recevoir des révélations. Ces hommes ordinaires ont connu une progression des plus extraordinaires qui a aiguisé leur vision, façonné leur perspective, susciter de l'amour pour les hommes de toute nation et de toute situation et affirmer la réalité du rétablissement. J'ai maintes fois été témoin des efforts diligents de mes frères à remplir et magnifier leurs responsabilités tout en affrontant de graves problèmes physiques. Les afflictions n'épargnent pas ces hommes. Au contraire, ils sont bénis et fortifiés pour aller de l'avant vaillamment, tout en souffrant de leurs afflictions et de celles qu'ils côtoient. En servant avec ces représentants du Seigneur, j'ai découvert que leur plus grand désir est de discerner et de faire la volonté de notre Père Céleste et de son Fils bien-aimé. En conseil avec mes frères, nous avons reçu l'inspiration et pris des décisions qui reflètent un degré de lumière et de vérité qui va au-delà de l'intelligence, de la réflexion et de l'expérience humaine. Tandis que nous travaillons ensemble, dans l'unité, sur des problèmes épineux, notre compréhension collective d'un problème a été accrue de façon inattendue par le pouvoir du Saint-Esprit. Je suis béni de voir quotidiennement les personnalités, les capacités et la noblesse d'âme des dirigeants de l'Église. Certaines personnes trouvent que les manquements humains des frères sont déconcertants et qu'ils diminuent la foi. Pour moi, ces imperfections sont encourageantes et renforcent la foi. J'ai désormais vu 6 de mes frères recevoir, de par leur mort physique, une mutation à de nouvelles responsabilités dans le monde des esprits. James Faust, Gordon B. Hinckley, Joseph B. Wirslin, Elton Perry, Boyd K. Packer et Richard G. Scott. Ces vaillants frères ont consacré leur vie, leur âme tout entière même, à témoigner du nom de Jésus-Christ dans le monde entier. La somme de leur enseignement est inestimable. Dans les dernières années de leur ministère, ces serviteurs nous ont donné de puissants résumés spirituels, de leçons apprises pendant des décennies de service et de consécration. Ces dirigeants nous ont transmis des vérités de grande valeur, à un moment où certains pouvaient penser qu'ils avaient le moins à donner. Pensez aux derniers enseignements de grands prophètes des Écritures. Par exemple, Néphi a conclu ses annales par ces mots. C'est ce que le Seigneur m'a commandé, et je dois obéir. À la fin de sa vie, Jacob a lancé cette exhortation. Repentez-vous et entrez par la porte étroite, et continuez sur le chemin qui est resserré, jusqu'à ce que vous obteniez la vie éternelle. Oh, ayez de la sagesse, que puis-je dire de plus? Et Moroni a achevé son œuvre en préparant les plaques avec l'espérance de la résurrection. Je vais bientôt me reposer dans le paradis de Dieu, jusqu'à ce que mon esprit et mon corps se réunissent de nouveau, et que je sois amené triomphant dans les airs pour vous rencontrer devant la barre agréable du grand Jéhovah, le juge éternel des vivants et des morts. Frères et sœurs, vous et moi sommes bénis d'avoir les enseignements et les témoignages salutaires des prophètes et des apôtres des derniers jours. Leurs noms ne sont pas aujourd'hui Néphi, Jacob et Moroni, mais le président Faust, le président Hinckley, frère Wislin, frère Perry, le président Packer et frère Scott. Je ne suis pas en train de suggérer que les derniers messages de ces hommes bien-aimés étaient nécessairement les plus remarquables ou les plus importants de leur ministère. Cependant, la somme de leur apprentissage spirituel et des expériences de leur vie a rendu ces dirigeants capables d'insister sur des vérités éternelles avec une authenticité absolue et une grande force. Dans son dernier discours de conférence générale, en avril 2007, le président Faust a déclaré « Le Sauveur offre à tous une paix précieuse grâce à son expiation. Mais elle n'est accessible que dans la mesure où nous sommes disposés à chasser les sentiments négatifs de colère, de dépit ou de vengeance. De tout mon cœur et de toute mon âme, je crois au pouvoir guérisseur qui peut nous être donné quand nous suivons la recommandation du Sauveur de pardonner à tous les hommes. Le message du président Faust est la grande leçon de la vie d'un des hommes les plus disposés à pardonner que j'ai connu. Le président Hinckley a témoigné lors de sa dernière conférence générale en octobre 2007. Je vous exprime aujourd'hui mon témoignage de l'appel du prophète Joseph, de son œuvre, et qu'il a scellé son témoignage de son sang en martyr de la vérité éternelle. Vous et moi sommes confrontés à la même question d'accepter la véracité de la première vision et ce qui l'a suivi. Sur la question de sa réalité repose la validité même de cette Église. Si c'est la vérité, et je témoigne que ça l'est, alors l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés est la plus importante de la terre. Le témoignage du président Hinckley affirme la puissante leçon de la vie d'un homme que j'aime et dont je sais qu'il était un prophète de Dieu. Frère Wislin a prononcé son dernier discours de conférence générale en octobre 2008. Il a déclaré « Je me souviens toujours du conseil que ma mère m'a donné il y a bien longtemps, le jour où mon équipe a perdu un match de football. Prends les choses comme elles viennent et aime-les. Si nous y réagissons correctement, l'adversité peut être une bénédiction pour nous. Si nous recherchons le côté humoristique des situations, essayons d'avoir une vision éternelle, comprenons le principe de la compensation et nous rapprochons de notre Père Céleste, nous pouvons supporter les difficultés et les épreuves. Nous pouvons dire comme ma mère, prends les choses comme elles viennent et aime-les. » Le discours de Frère Wislin est la grande leçon de la vie d'un homme que j'aime et qui était l'incarnation de la victoire sur les difficultés par la foi au Seigneur. Frère Perry se tenait à cette chaire il y a juste 6 mois. À ce moment-là, nous ne pouvions imaginer que son témoignage serait son dernier à une conférence générale. Je finirai en rendant témoignage, et mes 9 décennies sur cette terre me donnent largement le droit de dire cela, que plus je vieillis, plus je me rends compte que la famille est le centre de la vie et de la clé du bonheur éternel. Je remercie ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, tous les cousins, ma belle famille et la famille élargie qui enrichissent ma vie et la rendent même éternelle. Je rends avec la plus grande conviction et la plus grande solennité mon témoignage sacré de cette vérité éternelle. Le message de Frère Perry est la grande leçon de la vie d'un homme que j'aime, qui a compris par une longue expérience le lien essentiel entre la famille et le bonheur éternel. Il y a 6 mois, le président Packer a souligné pendant la conférence générale le plan du bonheur de notre Père Céleste, l'expiation du Sauveur et la famille éternelle. Il a dit « Je rends témoignage que Jésus est le Christ et le Fils du Dieu vivant. Il est à la tête de l'Église. Grâce à son expiation et au pouvoir de la prêtrise, la famille qui commence dans la condition mortelle peut perdurer à toute éternité. Je suis très reconnaissant pour l'expiation qui peut laver chaque tâche, quelle que soit sa difficulté, sa durée ou le nombre de fois où on l'a répété. L'expiation peut vous libérer à nouveau pour aller de l'avant avec pureté et dignité. L'expiation, le dernier message du président Packer est la leçon de la vie d'un homme que j'aime, qui a déclaré avec insistance et souvent que toute activité dans l'Église a pour but d'assurer le bonheur au foyer d'un homme, d'une femme et de leurs enfants, scellés pour le temps et pour toute l'éternité. Frère Scott a proclamé dans son dernier discours à la conférence générale en octobre 2014 « Nous sommes justement venus sur Terre pour progresser grâce aux épreuves. Les difficultés nous aident à devenir plus semblables à notre Père Céleste et l'expiation de Jésus-Christ nous permet de les endurer. Je témoigne que si nous allons activement à lui, nous pouvons endurer toutes les tentations, tous les chagrins et toutes les épreuves que nous rencontrons. Le message de Frère Scott est une grande leçon apprise tout au long de sa vie par un homme que j'aime et qui était un témoin spécial bien-aimé du nom de Jésus-Christ dans le monde entier. Frères et sœurs, le Seigneur déclare, que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c'est la même chose. Puissions-nous entendre et suivre les vérités éternelles enseignées par les représentants autorisés du Seigneur. Je promets que si nous le faisons, notre foi en notre Père céleste et en Jésus-Christ sera fortifiée et que nous recevrons conseil et protection pour nos situations particulières. Avec toute l'énergie de mon âme, je témoigne que le Christ vivant dirige les affaires de son Église rétablie et vivante par l'intermédiaire de ses serviteurs qui ont été choisis pour rendre témoignage de son nom. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
At the conclusion of the conference.
À la fin de cette conférence, nous exprimons nos remerciements sincères à toutes les personnes qui ont travaillé diligemment pour préparer ces sessions. Nous remercions tous les orateurs ainsi que toutes les personnes qui nous ont édifiés par la musique et toutes celles qui ont pris la parole. Le chœur va maintenant terminer la conférence en chantant « Aimez-vous les uns les autres ». Ensuite, Scott Whiting des 70 fera la prière de clôture. Merci, frères et sœurs, d'être fidèles et droits. Que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne.
Our dear
Notre cher Père aux cieux, nous t'aimons, aimons ton Fils. Nous venons devant toi à la fin de cette 185e conférence d'octobre avec beaucoup de reconnaissance dans le cœur, Père, pour l'occasion que nous avons eue d'être enseignés par les apôtres, prophètes, voyants et révélateurs, et d'avoir entendu le président Monson pour le manteau prophétique qui est le sien. Nous sommes reconnaissants pour la révélation que nous avons vue se produire alors que trois nouveaux témoins de ton Fils, du nom de ton Fils, ont été appelés. Nous prions que ta bénédiction soit sur eux et sur leur famille et sur les familles de ceux à qui ils sont associés. Nous nous souvenons de ceux qui nous ont quittés, nous les aimons. Nous te prions pour que des bénédictions de réconfort et de force reposent sur leur famille. Père, c'est un jour saint, ton jour saint, le jour du sabbat, qui a été un délice pour nous. Nous prions donc que cette conférence avec l'expression de notre adoration soit reçue comme un signe de notre amour, une expression de notre amour envers toi et notre désir d'entendre ta parole et de retourner à toi. Béni, pour que nous ayons dans le cœur le désir de reprendre et revoir les paroles que nous avons entendues dans les semaines et mois à venir, d'y réfléchir, d'y méditer à nouveau. Père, nous t'aimons et te disons ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 185th semi-
Vous venez d'assister à une session de la 185e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.